Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour à tous, c'est l'heure de votre émission Bana Okapi sur les antennes de Radio Okapi. Nous émettons à partir de Kinshasa, la capitale congolaise. L'émission Bana Okapi, diffusée du lundi au vendredi de 15h30 à 17h, est dédiée aux plus jeunes et aux jeunes. Nous la réalisons grâce à notre partenaire UNICEF. Les insectes sont généralement une excellente source de protéines de bonne qualité. Ils sont également riches en divers minéraux et vitamines telles que le calcium, le zinc et le fer. D'un point de vue nutritionnel, la plupart d'entre eux sont comparables au bœuf, au porc ou au poulet. En 2050, nous serons 10 milliards d'êtres humains à vivre sur Terre et autant de bouches à nourrir. Alors que les recherches s'intensifient pour trouver des alternatives alimentaires peu naissante pour l'environnement, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, incite la population à se familiariser à l'entomophagie, consommation d'insectes par l'être humain, afin de répondre à nos besoins en protéines. Pourquoi devrions-nous manger des insectes? Nous allons les découvrir dans cette émission Bana Okapi. Nous vous proposons un reportage dans un orphelinat où les enfants souffrant de la malnutrition sont nourris d'insectes. Ensuite interviendront nos différents invités, dont M. Paul Eloma, assistant du représentant de la FAO en charge de programme qui va parler de l'importance des insectes dans la nutrition. Je suis Sarah Soumbela à la présentation, une mise en onde de Diedoné Nyangasa wa Nyangasa. Bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de Bana Okapi. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, les insectes représentent une bonne opportunité d'associer connaissances traditionnelles et sciences modernes afin d'améliorer la sécurité alimentaire partout dans le monde. On ne recense pas moins de 1900 espèces d'insectes comestibles consommées dans le monde. Autant d'aliments riches en nutriments qui font déjà partie de l'ordinaire dans de nombreux régimes alimentaires courants dans de nombreux pays. Pourquoi faut-il manger des insectes? Nous allons le savoir dans cet élément que nous propose Gisèle Cage.
Les insectes comestibles sont des très bonnes ressources de protéines hautement qualitatives, 45 à 70% selon les espèces, dont le 9 acides aminés essentiels, des fibres d'acides gras comme les oméga 3 et 6 et des minéraux, fer, zinc, magnésium, cuivre, sélénium, acides aminés. Selon l'espèce et l'alimentation de ces insectes, certaines de ces teneurs peuvent aller jusqu'à couvrir 100% de nos besoins journaliers en certains micronutriments. Les insectes comestibles ont donc une valeur nutritionnelle élevée et peuvent être un aliment d'appoint dans des régimes alimentaires sains. Ils fournissent un apport en énergie, en graisse, en protéines et en fibres et selon l'insecte. En pourcentage de la matière sèche, les insectes comestibles contiennent 53,22% de protéines alors que la viande bovine contient 40,5%, 34,53% de matière grasse dans les insectes comestibles contre 56,3% de matière grasse dans la viande bovine. Enfin, 6,26% des fibres alimentaires dans les insectes comestibles contre 0% des fibres alimentaires dans la viande bovine. Les insectes comestibles offrent notamment des multiples avantages pour l'environnement. C'est ainsi que les élevages d'insectes émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre que la plupart des autres sources de protéines animales et nécessitent moins d'eau. En plus d'être une source de nourriture, les insectes comestibles peuvent procurer des moyens d'existence et de revenus, sachant que l'élevage des insectes ne réclame que peu d'espace. Il est possible de le pratiquer en milieu urbain aussi bien qu'en milieu rural, ce qui le rend avantageux là où d'autres ne le sont pas. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, la croissance démographique mondiale se poursuivant, la production alimentaire va devoir augmenter, ce qui ne peut manquer de mettre sous tension la production agricole et nos ressources naturelles limitées. En raison de leur composition nutritionnelle riche en protéines et lipides, de leur besoin minimal en ressources et de leur technique d'élevage simple, les insectes peuvent offrir une opportunité économique et écologique sûre de lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Les insectes comestibles peuvent également aider à créer de nouveaux moyens de subsistance et à soutenir le système agricole durable, poursuit la FAO. Bien que consommés dans de nombreuses régions du monde, l'important potentiel économique et nutritionnel des insectes comestibles demeure sous-exploité. À l'ère de nouveaux aliments, pourquoi ne pas envisager l'ajout de cette ressource de nourriture naturelle et saine à nos régimes alimentaires?
Merci Gisèle Cage pour ces précisions. Située à l'université de Kinshasa, dans la concession du collège doctoral Farms for Orphans, la ferme pour les orphelins, FFO, a mis en place les techniques d'élevage des insectes comestibles qui répondent à la fois aux problèmes d'insécurité alimentaire et à la protection de l'environnement. À ce jour, elle produit des charançons de palmiers appelés communément possés. Ces charançons servent à nourrir des enfants orphelins âgés de 0 à 5 ans, souffrant de malnutrition ainsi qu'aux personnes vulnérables. FFO combat ainsi contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à la protection de l'environnement et des écosystèmes de palmiers. Il y a quelques semaines de cela, Gisèle Cage et Plamedine Biavanga ont visité la ferme pour les orphelins. Madame Françoise Lukadi Matala, agronome, présidente et coordinatrice de Farm for Orphans, ou la ferme pour les orphelins, a accepté de nous expliquer comment sa ferme produit des charançons de palmiers. Suivez.
Bienvenue dans notre ferme.
Merci.
Alors.
Donc la ferme pour les orphelins.
Ouais, traduction littérale pour ouais. Les orphelins. Mm-hmm. Alors vous allez vous demander pourquoi Farms for Orphans? Parce que c'est une ferme qui produit les aliments d'abord pour les orphelins et les personnes démunies. Et la population vient en troisième lieu, ceux qui veulent acheter viennent en troisième lieu. Notre priorité, c'est les orphelins et les personnes démunies.
Donc ici, c'est la production des charançons de palmiers.
Voilà, c'est la production des charançons de palmiers. On fait le cycle complet de charançons. On produit nos propres géniteurs, qui sont des parents. Alors, après la production de géniteurs, on fait des accouplements, ils vont pondre les œufs vont émerger en larves. Nous allons nourrir ces larves-là jusqu'à leur maturité. À la maturité, on scinde une partie pour la nutrition, une autre partie qu'on va encore transformer en reproducteur.
D'abord, je vais vous présenter. Donc là, je m'entretiens avec Madame Françoise Lukadi Matala, qui est présidente de la ferme pour les orphelins. Aujourd'hui, Radio Capi a visité sa ferme ici à l'université de Kinshasa. Madame, vous pouvez nous expliquer d'abord le processus de reproduction. Comment vous le faites exactement? Vous commencez par quoi pour produire finalement les charançons de palmiers?
Alors, je vais d'abord compléter un tout petit peu. Ici, je vous reçois dans ma ferme de l'université de Kinshasa parce que c'est là qu'il y a plus d'espace et une grande production. Mais nous avons une autre ferme au niveau de Willery, à l'Inerbe. Donc, c'est là que les gens s'approvisionnent aussi beaucoup plus facilement pour ceux qui sont en ville. Alors, comment on fait? On commence, fallait aller presque 3 fois par semaine au Congo central pour faire des captures des géniteurs dans le milieu naturel, les amener dans la ferme.
Ça veut dire quoi, capture des géniteurs?
Alors, on part au Congo central, on place des pièges dans des plantations de palmiers. Okay. Et on place des phéromones qui attirent les insectes que vous voyez là.
Ok.
Sans eux, il n'y a pas d'imposé.
Ah, donc
tout
ça...
commence ici.
Ok.
Sans eux, on ne peut pas parler d'imposé. Alors, on part au Congo central, on place des pièges que nous fabriquons nous-mêmes. Et on met des phéromones juste qui sont des substances qui émettent des odeurs qui attirent ces insectes. Mmh. Et ils viennent, ils entrent dans nos pièges, nous on part, on les amène dans notre ferme. Et voilà, on est plus à cette étape, on a brandi cette étape, on les produit ici, dans notre ferme maintenant. Alors, il faut les avoir, il faut avoir les mains.
Quelle quantité à peu près?
En tout cas, il en faut énormément. Nous, on peut utiliser des milliers de couples le mois pour faire des accouplements. Alors, il faut les avoir, les mâles et les femelles. On place dans des substrats de ponte. Ils vont pondre les œufs. Après la ponte des œufs, on va transférer ces larves dans des bacs de croissance. Accordez-moi un instant. Je peux avoir un bac de croissance.
C'est où?
Ça, c'est prêt. J'ai besoin de celui qui est prêt. Alors.
Donc, tout ce que nous voyons ici, ce sont de bacs de croissance.
Oui.
Qu'est-ce que vous appelez là?
Oui, ce sont des bacs de croissance d'imposés. Ah. Et vous pouvez voir qu'ils sont là à l'intérieur.
Okay. Déjà. Ils sont déjà là.
Oui, ils sont déjà là. Nous, on
ce
va
sont
faire
déjà des adultes, hein?
Oui, ce sont des larves matures déjà.
Okay.
Ce sont des larves matures. C'est à cette étape que nous décidons, voilà, selon leur poids, il y a ceux que nous pouvons vendre et ceux que nous remettons dans un autre substrat pour avoir nos propres géniteurs.
Bon, on veut aller quand même étape par étape, hein, madame. On a été au Congo central, on revient ici au laboratoire et deuxième étape, c'est quoi exactement?
Après la croissance, nous, on fait nos contrôles des larves, on vient les stocker dans des bacs comme ça. Tout ce qu'on attend, c'est que le client appelle, il a besoin des larves, on réserve pour lui, on pèse, on envoie sur le marché ceux qui veulent consommer, voilà.
Ah, vous vendez aussi dans le marché?
Ça dépend. S'ils viennent vers nous, ils achètent. Et nous, l'objectif, c'est pas vraiment de vendre. Comme les gens en ont besoin, on leur donne quand on en a en abondance, mais notre objectif reste de nourrir d'abord les orphelins, les démunis.
Ok.
Oui.
Ça peut peser combien à peu près?
Ici, on peut avoir à peu près 2 kilos quelque chose. Mais il faut d'abord les peser.
Ah, il faut les peser.
Ouais, parce qu'on avait gardé pour un client qui n'est pas venu. Et les larves, quand ils ne sont pas nourris suffisamment, ils perdent du poids. Donc, on peut être dans les 2 kilos.
Ok. Et vous le nourrissez avec quoi?
Alors, on fait plusieurs mélanges. Pour les nourrir, la nutrition des larves dépend des âges. Ce qui est sûr, pour commencer à établir une formule comme ça, on a pris les tissus des palmiers, parce que dans le milieu naturel, ils se nourrissent des palmiers. On a amené le palmier au laboratoire pour savoir de quoi est constitué le palmier. Maintenant, on a essayé une approche qui prend des déchets de céréales et d'autres débris de végétaux comme mélange pour essayer tant soit peu de rapprocher la composition du palmier. Alors, c'est un mélange de céréales, comme le palmier, il y a du fibre, on trouve tout ce qui est comme déchets végétaux à base de fibres. L'idée, c'est de protéger l'environnement, amener les gens à savoir qu'il y a des pratiques de culture d'insectes qui ne peuvent pas détruire les écosystèmes naturels. Vous n'avez pas besoin de détruire les arbres, les plantations, vous n'avez pas besoin... de faire des pratiques qui vont mettre fin à la vie des cultures, alors qu'on est en train de parler du changement climatique, on a besoin de chaque espèce d'arbre. Alors, il faut se tourner vers les méthodes beaucoup plus durables et protectrices de l'environnement et mettre en place des élevages d'insectes. Cet aspect d'élevage résout non seulement la question liée à l'aspect environnemental, mais aussi la question liée à la saisonnabilité des insectes sur le marché. Il y a des moments où vous arrivez, surtout pendant la saison sèche comme ça, si vous avez besoin des insectes, ils ne sont pas disponibles.
Mais pourquoi? C'est pas la période.
Parce que ce n'est pas leur période et ce n'est pas les conditions favorables pour aider à se reproduire. Okay. Mais dans les conditions d'élevage, nous avons cette facilité-là d'adapter les conditions de température et d'humidité. Parce que tout est déjà dans la littérature. Il suffit juste d'adapter les conditions de température et d'humidité. Ils vont vivre ici. Alors que dans le milieu naturel, il fait très froid. Ils n'émergent pas, ils ne se reproduisent pas, ils se cachent. Et ils attendent la saison pluvieuse, la période de chaleur pour revenir encore.
Mais dans ce laboratoire, c'est quelle température au moins que vous mettez?
La température idéale, c'est 25 degrés pour tous les âges. Mais après, il y a des variations selon les âges. Mais à 25 degrés, 70% d'humidité dans le bâtiment, vous faites votre élevage sans problème.
Mais la production que nous voyons ici, c'est pour combien de temps à peu près?
Le cycle complet, il fait 3 mois.
Ah, c'est pour 3 mois.
Oui, c'est pour 3 mois pour avoir l'imposé prêt à être consommé comme ça. Mm-hmm. Vous devez patienter 6 semaines. À 6 semaines, vous les avez, mais pour avoir un adulte complet, c'est 3 mois. Alors, pour ne pas tomber aussi dans le problème de rupture des stocks, c'est comme ça que nous mettons en place des bacs chaque jour pour faire en sorte que chaque jour, dans 3 mois, nous avons des bacs à contrôler et des larves à écouler sur le marché. Exactement.
Et combien de gens travaillent ici dans ce laboratoire?
Alors, j'ai à mon actif 6 personnes qui m'aident de façon très, très, très remarquable.
Et qui sont-ils exactement? Des spécialistes du domaine?
Pas forcément, vous n'avez pas. C'est le seul domaine où je n'ai pas besoin de savoir. J'ai pris la plupart d'eux sans même connaître. Ils ont fait quelles études? Ce n'est pas mon problème. Parce que même un ingénieur agronome comme moi, si ce n'est pas votre domaine, vous n'allez pas le faire. Vous avez beau avoir votre diplôme d'ingénierat. Si vous ne savez pas produire les insectes, vous ne pouvez pas. Moi, je les recrute. Je mets en place une période d'essai de 3 mois où je forme personnellement la personne à faire cet élevage et après je commence à suivre, c'est pas de façon individuelle. Alors j'ai un biologiste qui est mon collaborateur, Jonathan il est biologiste, j'ai des nutritionnistes, j'ai des gens qui ont fait la comptabilité à l'IEC, le secrétariat. Moi, j'ai besoin de gens qui sont motivés et qui ont la volonté. Je les apprends et on avance. Parce que j'ai eu des ingénieurs qui ont abandonné auprès de 2-3 semaines parce que c'était trop dur comme travail. Et moi, c'est la volonté et on avance, quoi.
Madame Françoise Loukadi Matala, présidente et coordonnatrice de Farms for Orphans, s'entretenait avec Gisèle Cage.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue dans cette deuxième partie de votre émission Bana Okapi. Les insectes, généralement une excellente source de protéines de bonne qualité, sont également riches en divers minéraux et vitamines tels que le calcium, le zinc et le fer. En 2050, nous serons 10 milliards d'êtres humains à vivre sur Terre et autant de bouches à nourrir. Alors que la recherche s'intensifie pour trouver des alternatives alimentaires peu naissantes pour l'environnement, la FAO incite la population à se familiariser à l'entomophagie afin de répondre à nos besoins en protéines. En raison de leur composition nutritionnelle riche en protéines et lipides, les insectes peuvent offrir une opportunité économique et écologique sûre de lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Tout à l'heure, nous vous emmenons au centre orphelinat Lisanga Yaklisto, dans la commune de Ngaba, où les enfants sont nourris des insectes afin de lutter contre la malnutrition. Ensuite, suivront nos invités, parmi lesquels l'agronome Françoise Loukadi, le biologiste Jonathan Chibangu, tous de la ferme pour les orphelins. Nous allons terminer avec Monsieur Henri Paul Elouma, assistant représentant de la FAO en charge de programme.
Okapi, encore plus d'infos.
Le centre orphelinat Lisangai à Clisto est parmi les bénéficiaires de chansons de palmiers produits par la ferme pour les orphelins. Si certains enfants disent apprécier ces insectes, d'autres refusent d'en manger parce que cela les dégoûte. Reportage de Plamedim Biavanga et Gisèle Cage.
Nous sommes au centre orphelinat Lisangai à Clisto dans la commune d'Ingaba. Ce centre compte en son sein plus de 180 enfants. Parmi eux, des enfants qui avaient des problèmes de nutrition. C'est ici que la ferme pour les orphelins assiste les enfants avec des charançons de palmiers pour leur nutrition. Certains enfants orphelins de Lisangai à Clisto disent apprécier l'imposé et pensent que d'autres enfants doivent en consommer comme eux.
J'aime consommer les mposé parce que c'est trop délicieux. En plus, tu peux le manger avec le foufou car son goût dépasse beaucoup d'aliments. Ça apporte des vitamines. À force de le manger, tu auras la force dans le corps. Je suis victime de la malnutrition de le bas âge. Mais lorsque j'ai commencé à consommer l'imposé, ma santé a totalement changé.
Lorsque je consomme l'imposé, je ressens un bon goût sur ma langue. Ça me donne la force et je grossis vite.
Si certains enfants disent apprécier les charançons des palmiers, d'autres refusent d'en manger parce que cela les dégoûte. D'autre part, Madame Jeannette Mokola, la secrétaire du centre, explique que grâce au imposé, la santé des enfants s'est beaucoup améliorée.
Les enfants n'aiment pas consommer les poussées. Certains le mangent très bien sans difficulté et d'autres le craignent. Beaucoup d'enfants étaient malnutris, mais lorsqu'ils ont commencé à consommer les poussées, leur corps a totalement développé et les enfants ont pris du poids. Je laisse un message aux initiateurs de ferme pour les orphelins de ne pas nous abandonner, qu'ils continuent de nous aider avec les poussées. Nous donnons aussi les soya, mais le poussé est très efficace car ça contribue beaucoup à la santé des enfants.
La ferme pour les orphelins continue à assister les enfants du centre orphelinat Lisangai à Clisto.
Trouver des solutions palliatives aux problèmes d'accès aux protéines d'origine animale pour les enfants orphelins et les personnes démunies, c'est l'objectif qui s'est fixé depuis 2017, la ferme pour les orphelins. Sur place, la ferme produit de larves de charançon de palmier communément appelées mposé afin de pallier aux problèmes d'accès aux protéines d'origine animale pour les enfants défavorisés et les personnes démunies, aussi résoudre le souci de la rareté et de la saisonnalité des insectes comestibles sur le marché. Madame Françoise Lukadi Matala, présidente coordonnatrice de Farm for Orphans, une fois de plus invitée de Gisèle Cage.
Madame Françoise Lukadi, d'où est partie cette idée-là de reproduire des charançons?
Alors, il faut noter que Farms for Orphans existe déjà depuis il y a 9 ans. Ils essayaient tant soit peu de mettre en place des techniques de production des insectes. C'est en 2022 que moi j'ai rejoint la structure comme chargée de recherche pour mettre en place des protocoles. Moi, c'est depuis 2017 à l'université que je faisais des recherches sur les charançons de palmiers. Alors, on a essayé de travailler ensemble, on a mis les efforts ensemble, on a eu nos protocoles qu'on développe maintenant. Et pour arriver à mettre en place tout ça, ça a demandé beaucoup d'années d'études. Et nous sommes là grâce aux efforts que nous avons fournis. Et comment Farms for Orphans est né? Alors, c'était parti d'un constat. Il y a eu des moments où Farms for Orphans faisait des visites dans différents orphelinats. Il n'apportait que des aliments, des vêtements, un soutien aux personnes démunies. Mais ils ont vu que le besoin allait au-delà d'une simple visite.
Il y avait aussi des besoins de nutrition.
Oui. Il y avait une carence en nutrition accrue, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Alors, il fallait trouver une méthode durable pour résoudre ce problème. C'est comme ça qu'on s'est tourné vers la partie élevage. Avant, c'était juste une ferme de donations aux personnes démunies. On a ajouté l'aspect élevage. On a commencé à étudier les insectes. Alors, il y aura dans l'avenir d'autres types d'insectes parce que maintenant, on a maîtrisé avec l'élevage de charançon de palmier. Il y a d'autres sources de protéines chez les insectes, notamment les criquets, les grillons, les chenilles. On va voir dans quelle mesure adapter tout ça, transformer nos déchets en champignons. Parce que c'est pas tout le monde qui apprécie l'imposé. Mm-hmm. Les questions se posent. Est-ce que vous ne pouvez pas faire aussi les grillons? Est-ce que vous ne pouvez pas faire aussi les chenilles? Il faut apporter des réponses aux besoins de la population.
Donc là, il faut aussi agrandir aussi l'endroit.
Exactement.
Il faut avoir des fonds.
Ah ouais, il faut un soutien en termes financiers. Mmh. On fait du mieux qu'on peut avec le peu que nous avons. Beaucoup de gens se disent, mais vous aidez les orphelins, pourquoi vous vendez? Parce que justement,
c'est
pour faire fonctionner. Mmh. Parfois, aller toquer à des portes des gens, c'est pas facile et c'est pas tout le monde qui vous accueille. Au lieu de commencer à toquer à chaque fois aux portes des gens, on vend une petite partie de notre production pour nous autosuffire.
Pourquoi d'abord vous avez eu l'idée d'assister les orphelins? C'est, vous avez créé votre organisation dans le but de soutenir les orphelins, c'était ça?
Oui, exactement.
Au départ,
c'était assister les orphelins. Mm-hmm. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai rejoint en 2022. Et en 2015, la fondatrice, elle est arrivée au Kasaï. Elle a vu que le problème de la malnutrition, en tout cas, c'était accru. Mais elle a essayé de travailler dans la zone du Kasaï avec les gens qui sont là, comment faire l'élevage et tout. Ça ne marchait pas. Comme il n'y avait pas, parfois, il suffit pas juste d'avoir une idée. Il faut avoir des gens de confiance pour essayer d'incarner votre vision et avancer. Elle a échoué parce qu'il n'y avait pas ces personnes-là. Et maintenant, comme il y a une équipe stable, ça se fait maintenant à Kinshasa, ça se répand. On verra comment l'étendre dans notre province, essayer tant soit PDD, là où il y a beaucoup plus.
Donc, ce projet n'est pas encore dans les provinces, c'est uniquement à Kinshasa?
Oui, pour le moment, nous sommes uniquement à Kinshasa.
Donc, c'est encore à l'étape expérimentale ou bien déjà le projet est bien assis?
Étape expérimentale. En termes d'élevage, non. Mm-hmm. Parce qu'on connaît déjà les ABC de l'élevage. On reproduit maintenant, on avance. Mais étape expérimentale, peut-être en termes d'installation, oui. On est encore à Kinshasa. La RDC est vaste et le besoin en nutrition est tellement élevé. Et on va voir dans un futur très proche comment s'étendre.
Mais chaque jour que vous vous retrouvez dans ce laboratoire, quel est le travail que vous faites exactement?
Chaque jour, quand on est là, on a tout. Vous pouvez constater qu'il y a l'horaire qui est là. Ouais. Il y a des bacs à contrôler, il y a des accouplements à faire. Il y a, comme je vous ai dit, nous avons deux fermes. Aujourd'hui, mon équipe est ici parce qu'il y a beaucoup plus de tâches à faire ici. La ferme Unikin ne produit essentiellement que les larves, mais la ferme où il ira, l'Inerbe, reproduit les géniteurs qui sont les reproducteurs.
Okay.
Vous voulez voir ça, là. Donc, Inerbe ne produit que ça, Unikin ne produit que ça. Donc,
Là, je vois 7 adultes, 6...
Ce sont les étapes.
Ah, d'accord.
C'est le cycle complet d'imposé.
Uh-huh.
On commence par les adultes que nous accouplons.
Oui. Uh-huh.
Ils vont s'accoupler et pondre les œufs. Ça, ce sont les œufs d'imposé.
Uh-huh.
Et vous avez des jeunes larves qui émergent. Et après, ces larves, ils vont s'enrouler.
Ça, ce sont déjà des larves?
Oui, ce sont
des
larves.
Mais ça ressemble déjà au imposé, ça?
Il y a plusieurs stades. L'imposé commence très, très petit. Comme des graines de riz. Ça commence très petit, c'est beaucoup d'efforts. Et quand vous, à partir
mais
des
déjà sur la photo, c'est un peu plus grand, quoi.
Oui, c'est un peu plus grand. Après, les larves presque matures, là, ils s'enroulent. On appelle ça de cocon. Ils s'enroulent dans le cocon pour émerger.
Donc, ça, elles font ça, elles-mêmes.
Oui, elles-mêmes. Ils n'ont pas besoin de votre effort. Vous donnez juste l'aliment. Ils s'enroulent. Si on les laisse ainsi, ils vont commencer à s'enrouler. Dès que leur maturité a atteint son cap, ils commencent à s'enrouler dans des fibres.
Ah.
Après, vous aurez des prépupes, des pupes. Et après, ils sortiront d'eux-mêmes dans leur cocon comme des géniteurs.
Donc, ils reviennent encore à l'état de géniteurs.
Exactement.
Ah, d'accord.
C'est comme ça que ça se passe.
Mm-hmm.
Donc, on a des tâches bien établies. On a tout un système. Chaque étape a une période bien déterminée. Il faut revenir après 2 semaines. Il faut revenir après 3 semaines. Tout ça, il y a tout un système Excel bien établi qui nous indique, voilà, ça c'est prêt, contrôlé. Il y a des systèmes d'encodage parce que vous ne pouvez pas vous réveiller, vous venez couvrir un bac, non.
Mm-hmm.
C'est comme ça que vous voyez que même les étagères sont étiquetées, tout ça, pour encoder.
Donc là, quand c'est étiqueté, vous écrivez quoi exactement?
Ici?
La période?
Pour nous, quand c'est étiqueté, c'est pas question de la période. Si on vient, on place ces bacs ici. Après un contrôle, par exemple, je viens, je les contrôle. Ils sont pas encore matures. Je les place ici. Je mets dans mon ordinateur. J'ai placé autant de bacs dans l'étagère E1. Et le système me calcule automatiquement. Voilà, à cette étape, tu dois venir contrôler après 3 semaines, par exemple.
Ah,
et ça me génère une date automatiquement. Okay. C'est cette date-là, quand elle arrive, le tableau, on le trace, on fait notre charge horaire hebdomadaire et on peut suivre parce que ça ne peut pas se faire de façon hasardeuse.
Donc, ce n'est pas chaque jour que vous êtes ici présent.
On est là chaque
jour. Ah, vous êtes
jour.
Chaque
parce
jour.
Parce que chaque jour, on met en place de diète, de bacs d'accouplement. Et chaque jour, on a des bacs à contrôler. On peut le faire aujourd'hui. La réponse, c'est dans 3 mois. Mais il y a les bacs qu'on avait placés il y a 3 mois qui répondent aujourd'hui. C'est le cycle complet.
OK. L'importance de la...
L'aspect nutritionnel,
voilà.
Impossible.
Ah, d'accord. Voilà. Okay. Sur le marché... Ça se vend à combien?
C'est moins cher par rapport aux autres. Nous vendons par kilo. On a beaucoup de défis. Moi, je suis ingénieur agronome. En même temps, je suis au ministère de l'Agriculture. Presque chaque année, on fait le rapport annuel de la campagne agricole. Et quand il faut quantifier les données, c'est un challenge. Parce que les gens vendent de façon hasardeuse, ils vous disent écolo, tout ça, mais ça représente quoi en termes de kilos, en termes de mesures palpables, ils savent pas. C'est comme ça qu'on vend ça en termes de kilos. Un kilo, c'est à 20 dollars chez nous. Et dans un kilo, vous avez une moyenne de 150 larves ou 150 possées. Mais sur le marché, on a fait toutes ces études-là. Le marché vend par pièce actuellement. Ça varie de 500 à 800 francs une larve. Si on prend juste avec la larve de 500 francs, 150 pièces, vous êtes déjà à 75 000 francs. Donc, c'est un prix très offrant par rapport au marché.
Les orphelinats que vous assistez, ils sont au nombre de combien?
Bon.
Les orphelinats et aussi le nombre des orphelins aussi.
Nous, on ne se fige pas. On a peut-être des orphelinats seulement qu'on voit de façon permanente.
Okay.
Mais ce que je fais, c'est que quand j'arrive à chaque coin de la rue, quelqu'un me sollicite pour une aide aux orphelins, je prends juste le contact. Je programme, on part avec mon équipe, on va le voir. Et le reste du temps, on laisse nos contacts. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin d'un poste, il suffit juste de nous écrire, nous, on va programmer pour vous. Pour ne pas être, ne pas avoir des partis pris, quoi.
Okay.
Se focaliser sur un nombre précis d'enfants. Mais le nombre le plus inférieur que nous avons eu à visiter jusque-là, ils étaient à 31.
Okay.
Et le nombre le plus élevé, ils étaient à 97 enfants, sans compter les adultes, parce que nous, on vise beaucoup plus les enfants.
Ok, mais qu'est-ce que j'allais dire? Vous le faites comment? Chaque mois ou bien à chaque production ou bien comment ça se passe?
Avant, on le faisait de façon trimestrielle. Maintenant, on le fait par mois. Chaque mois, on part visiter. Parce qu'on a maîtrisé le protocole, on a une fréquence beaucoup plus stable de production des larves. Alors, à chaque fois que c'est disponible, le mois, on part en visite.
Mais quelle quantité que vous mettez sur le marché?
En tout cas, jusqu'à présent, c'est juste au mois de juin, avec la promo Lipanda que nous avons fait, que nous avons écoulé 100 kilos des larves sur le marché. Mais on ne dépasse pas 100 kilos parce qu'il reste notre priorité. Et quand on part visiter les orphelinats, on n'amène pas moins de 10 kilos par orphelinat parce qu'ils sont nombreux. Il faut préparer une quantité pour la séance de ce jour-là et puis laisser une autre pour qu'ils restent consommés.
Mais est-ce que les enfants aiment les posser? Ou est-ce qu'ils connaissent aussi l'importance de manger le mposé?
L'importance, on l'explique aux enfants. Certains aiment beaucoup, les autres n'apprécient pas. Moi-même, déjà, mon insecte favori, ce sont les chenilles, ce ne sont pas les mposés. C'est comme ça qu'avec le peu de moyens à l'avenir, on va commencer à les transformer, faire des sucreries, des biscuits pour eux.
Okay.
Parce que si c'est pas facilement acceptable sous cette forme ou préparé, parce qu'il y a d'autres, dès qu'ils voient comme ça, même si vous préparez, il peut plus manger, parce qu'il les a vus déjà vivants. si on peut les amener sous forme, on les transforme en poudre qu'on peut ajouter comme complément nutritionnel aux biscuits, aux bonbons, ils vont prendre sans problème. Et c'est ce qu'on fait de manière générale.
Madame Françoise Loukadi Matala, je rappelle que vous êtes présidente de la ferme pour les orphelins. Merci.
Je vous en prie, madame. C'est nous qui sommes heureux de vous avoir dans nos murs.
Jonathan Chibangu Mutombo, biologiste et manager de la ferme pour les orphelins, nous parle quant à lui de l'importance des charançons de palmiers dans la nutrition. Il est au micro de Gisèle Cage.
Je m'entretiens avec M. Jonathan Chibangu Mutombo, qui est biologiste moléculaire de formation, d'ailleurs manager de la ferme pour orphelins. Alors vous allez nous dire, qu'est-ce que vous faites exactement comme travail dans cette ferme?
Ouais, ici, comme vous avez dit, je suis manager de la ferme. Ce qu'on fait, c'est moi qui établis l'horaire des activités hebdomadaires par jour, parce que c'est moi qui encode les données aussi. Je demande aux autres de bien suivre le protocole. Je suis le protocole ensemble avec Françoise et voilà, c'est ce que je fais généralement.
Pouvez-vous nous parler de l'importance de charançons de palmiers dans la nutrition?
Dans la nutrition, c'est comme la plupart des insectes, les mpossés, comme on les appelle communément ici, sont riches en protéines, surtout, et c'est ce qu'on cherche le plus souvent, même s'ils contiennent d'autres choses, telles que les lipides, les glucides, et les fibres en trace, et autres vitamines, minéraux. C'est important en nutrition parce que ça participe justement à la bonne santé. Quand une personne est en carence en termes de protéines, et manger l'imposé va l'aider à pouvoir revenir en forme et être en meilleure santé.
Donc là, il faut manger régulièrement alors?
Si vous le pouvez en tout cas. Moi, je conseillerais aux personnes de manger régulièrement l'imposé, surtout s'ils se sentent pas suffisamment en bonne santé surtout. Mais quand vous êtes en surpoids, il faut faire attention. C'est tellement riche qu'il faut le manger modérément si vous êtes en surpoids.
Donc ouais. ça peut même augmenter le poids.
Exactement, parce que c'est riche en protéines. On a fait l'analyse récemment, on a trouvé que en termes de pourcentage de protéines, on dépassait déjà les 15% pour juste 100 grammes de poussé.
Alors, dites-nous, parce que vous assistez quand même les orphelins, est-ce que vous ciblez des orphelins qui ont de carences de protéines ou vous alimentez tous les orphelins que vous retrouvez dans l'orphelinat? Comment ça se passe exactement?
Bon, normalement, on va dans les orphelinats où on constate cette carence. Mais c'est généralement les enfants de moins de 5 ans qui présentent cette carence en protéines. Et on les cible, mais on vient nourrir tout le monde parce qu'on vient avec suffisamment de mpossé pour nourrir tous les enfants qui se trouvent dans cet orphelinat.
Combien de quantités à peu près?
Récemment, on a disponibilisé une vingtaine de kilos. C'est conséquent, même dans le marché, c'est beaucoup d'argent pour l'orphelinat qu'on a visité récemment. Et ça nage dans ça. On varie des 10 à 20 kilos. Ça dépend du nombre qu'on peut trouver aussi. S'ils sont nombreux, on peut aussi augmenter.
Mais pour qu'un enfant sorte de l'étape de la malnutrition, pour être maintenant en bonne santé, il doit être nourri combien de fois, par exemple?
Ça, personnellement, je ne peux pas vous donner exactement ce qu'il doit suivre. Les nutritionnistes sont mieux placés pour suivre, parce qu'eux suivent les étapes. Cet enfant présente une malnutrition aiguë, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et là, c'est par rapport à leurs études, par rapport à ça, ils vont commencer à suivre l'enfant jusqu'à ce qu'il revienne en forme.
Mais c'est parce que vous ciblez des orphelinats, une fois sur place, vous les nourrissez, et puis vous retournez là-bas après combien de temps? Est-ce que vous vous arrêtez là parce que vous avez apporté 20 kilos? Ou bien, comment vous faites le suivi pour que les enfants continuent quand même à se nourrir d'un poussé?
On passe visiter de temps à autre. Là, c'est même pas seulement dans le cadre d'une visite officielle avec tout ce qu'on a. On passe visiter, voir si les enfants sont en bonne santé. C'est pas... Ça, on fait avec les moyens que nous avons. On ne viendra pas chaque semaine, chaque jour avec des mpossés. Ça sera quasiment impossible. On s'arrange dans une période du mois ou bien du trimestre, venir deux, trois fois et les apporter les aliments. faire du mieux qu'on peut, en tout cas pour soutenir. À part ça, on apporte aussi d'autres aliments qu'ils vont manger en accompagnement avec l'imposé pendant un long moment jusqu'à ce qu'on revienne.
Mais est-ce que les gens comprennent finalement l'utilité des charançons, de palmiers dans la nutrition?
C'est pas tous, mais une partie en tout cas. Surtout quand on vient me poser à moi la question, on dit « Ah, toi, tu es biologiste, donne-moi l'explication, l'importance. » J'ai fait de mon mieux pour expliquer pourquoi. D'ailleurs, même si on parle de l'aliment du futur par rapport aux insectes, parce que les insectes sont riches en protéines par rapport...
Ça a été même recommandé par les FAO.
Exactement. Mmh. Alors, j'ai fait de mon mieux d'expliquer aux gens pourquoi manger les insectes et pourquoi s'alimenter en peau, c'est particulièrement parce que c'est ce que j'ai produit. Mm-hmm. Voilà, et les gens comprennent petit à petit. On a des sceptiques toujours, ils disent « Ah, vous faites des choses bizarres là-bas ». Non, on dit juste, on adapte les conditions du milieu extérieur en laboratoire en utilisant que des déchets. Vous pouvez jeter un déchet, nous on récupère ça, on nourrit ces impossés et ils sont bien à consommer.
Mais c'est quel type de déchets que vous ramassez?
Des déchets végétaux, ouais. Principalement. On étudie au préalable le milieu naturel de l'impossé qui est le palmier. Le palmier, c'est où on retrouve l'impossé en grande partie. Et là, après avoir fait cette étude, on va chercher les aliments, les déchets justement végétaux pour la plupart, qui pourraient contenir les mêmes types de sources alimentaires que le palmier. Et à travers ça, on établit un protocole. On se dira qu'à telle étape à tel âge d'une peau, c'est doit manger ceci, manger cela. Et voilà, l'une peau, c'est peut croître normalement.
Mais comment le lumpo s'est nourri? Donc par étapes pour arriver à la maturité. Ça c'est un secret.
Oui, c'est comme j'ai dit, c'est un protocole qui aujourd'hui est protégé. Uh-huh. On a protégé ce protocole, on ne peut pas le divulguer. Mais comme je vous ai parlé des déchets végétaux, quelqu'un peut tenter son expérience et il prend un déchet végétal quelconque. L'lumpo c'est va manger, mais la différence serait que s'il n'a pas les bonnes informations sur ce qu'il doit exactement manger, ça sera pas la même qualité.
La qualité, ça veut dire
le poids, ce qu'il contient en termes de nutriments, okay. Glucides, protéines, lipides, ça sera différent. Si vous prenez juste un déchet végétal quelconque, ça sera différent. L'lumpo c'est que vous aurez sera différent de notre, parce que nous on le suit. On reproduit presque son aliment de base. Voilà.
Mais est-ce qu'en RDC, dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, le MPOC est recommandable?
Non, personnellement, je n'ai pas encore fait des recherches dans ce domaine. Je peux pas me prononcer. En tant que scientifique, je ne peux pas me prononcer comme ça. Ouais. Mais je sais que les insectes sont recommandables pour la malnutrition. J'ai été choqué de voir dans le Kasaï une famille qui mangeait juste des grillons, 3 pièces de grillons pour une grosse boule de foufou. Et c'était choquant. Mais si ces grillons sont en grande quantité, par exemple, pour cette personne, elle n'aura pas de problème de malnutrition. Alors, c'est recommandable de manger les insectes. Les insectes comestibles, bien évidemment, c'est pas tous les insectes qu'on mange, même si la plupart sont mangeables dans certaines régions.
Une autre question, je reviens un peu en arrière. Les orphelinats que vous assistez, est-ce que vous remarquez que bon, le fait d'être assisté, les enfants reprennent la forme facilement?
Justement, dans les orphelinats, on connaît tous les réalités qu'il y a dans notre pays. Les enfants ne sont pas vraiment nourris à leur faim. Alors, si on s'arrange à apporter exactement de la nourriture dont ils ont besoin, ils reprennent la forme. L'exemple, c'est palpable, au fait. Si vous suivez exactement, parce que peut-être que moi, j'ai pas le temps d'aller tout le temps suivre. Si on a quelqu'un qui suit les enfants là, qui mange bien les protéines qu'on trouve dans l'imposé, vous allez voir qu'ils vont bien reprendre leur forme. C'est palpable. Vous allez voir ça.
Alors, monsieur Jonathan Tshibangu Mutombo, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.
Ah, c'est moi qui vous remercie, madame.
Nous poursuivons notre émission Bana Okapi du jour. Nous parlons des protéines d'insectes comestibles, une réponse à l'insécurité alimentaire pour les enfants. Dans un scénario d'insécurité alimentaire d'ici 30 ans, évoqué par la FAO, les insectes pourraient constituer une source de nourriture alternative et complémentaire. Monsieur Henri-Paul Eloma, assistant du représentant de la FAO en charge de programme, nous parle de l'importance des chansons et de quelle manière ceux-ci peuvent améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire. Il nous retrace également ce que fait la FAO pour valoriser la consommation des insectes comestibles. Monsieur Henri-Paul Eloma s'entretient avec Jeff Opela.
Monsieur Henri-Paul Eloma, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Aujourd'hui, Banokapi parle de l'importance des chansons de palmiers, communément appelées mpossé, dans la nutrition des enfants. Pourquoi devons-nous manger les insectes comestibles?
Je suis édifié que nous devons parler des chansons du palmier. On l'appelle les larves du dynaste du palmier. Nous mangeons des insectes puisque il y en a qui sont comestibles. Et dans nos traditions, depuis nos ancêtres et même dans le monde moderne, on en mange. Et pourquoi les mange-t-on? Puisque l'alimentation humaine doit comprendre trois types d'éléments organiques. Les protides, et là-dedans on trouve les protéines. Les protéines peuvent être d'origine animale ou d'origine végétale. Nous devons aussi manger dans notre alimentation ce qu'on appelle les lipides. On trouve essentiellement là-bas les graisses. Nous devons enfin manger les glucides. Ce sont des sucres, ce sont des aliments énergétiques. Ces trois types d'aliments sont nécessaires dans le repas de chacun pour la construction du corps. Alors, les protéines, pourquoi devons-nous les manger? Puisque les protéines construisent les cellules. C'est par exemple pour les enfants qui grandissent, qui augmentent en taille, en hauteur, c'est les protéines qui entrent dans la multiplication des cellules et dans la prise de poids, de l'épaisseur, de l'allongement, sinon de la hauteur. Et où est-ce qu'on trouve les protéines animales? Les protéines animales, nous les trouvons lorsque dans notre alimentation, il y a des animaux. Donc, il peut y avoir de la viande de vache, de la viande de porc, de la viande de chèvre. Il peut y avoir le poisson, les oiseaux, les reptiles, les crocodiles, ainsi de suite. Voilà. Tous ces biens, on peut pas facilement les acquérir. C'est ainsi que parfois, on recourt à des insectes qui, parfois, on peut le ramasser. On peut ramasser les larves des coléoptères, des dinastes du palmier. On peut ramasser les larves d'autres insectes comme les sauterelles pour les gens qui en mangent, bien d'autres insectes comme les termites, ainsi de suite. Les chenilles, on peut les ramasser. Sinon, on peut les acheter moins cher que la viande de bœuf ou la viande de cochon. On peut ajouter le fait que ceux qui mangent trop de viande rouge peuvent développer d'autres maladies.
Et comment les insectes comestibles peuvent aider à améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire?
Ils le peuvent. Pourquoi? Puisqu'ils sont plus facilement accessibles que les autres types de viande. Je l'ai dit tout à l'heure. Et même le poisson. Voilà. Dans des conditions d'insécurité alimentaire, dans des milieux ruraux, c'est même par cueillette qu'on peut acquérir les insectes. Et cela peut se faire par toute catégorie de personnes, les enfants, les femmes comme les hommes. Alors que dans certains milieux, avoir de la viande, il faut peut-être qu'il y ait un chasseur, il faut peut-être qu'il y ait un éleveur qui a élevé la volaille, le mouton, le chèvre, le caprin ou le vache. Si cela est possible, l'accès n'est pas moins cher.
Est-ce que les insectes sont également consommés en République démocratique du Congo?
Ben oui, bien sûr. Vous-même, vous avez parlé des larves d'Idinas du palmier ou des charançons, comme vous avez dit. L'imposé, on le mange, on les vend même, et c'est vrai que c'est un coût un peu plus élevé, c'est pas accessible. Mais aussi d'autres insectes, les chenilles. Les chenilles, ce sont les larves de papillons. Et il y a une multitude d'espèces. On peut donc le manger aussi, les chenilles. Il y a des populations qui mangent le chenille. Quand nous circulons dans nos villes, ici par exemple à Kinshasa, on peut rencontrer des jeunes gens qui vendent les termites. On les appelle ndongé en lingala. Voilà. Et ça contient aussi autant de protéines que les autres insectes. Dans le Congo central, pendant une certaine période de l'année, puis l'île, autour de grandes lumières, des sauterelles de couleur verte. Par exemple, en Banzangungu, on appelle ça les bisiamaza. Voilà. Et pendant cette période, on peut se nourrir de ces insectes. Et bien sûr qu'il y en a d'autres qui existent que dans nos différents coutumes, on les mange, puisque nous apportent les éléments protéiniques dont nous parlons, qui sont chers dans notre vie pour pouvoir aider à nous faire croître, à maintenir le poids et à diversifier notre alimentation et puis éviter l'insécurité alimentaire et éviter la malnutrition, surtout chez les enfants. Maintenant, on fait deux repas que l'on prépare, des mixtures qui contiennent, par exemple, des chenilles pour traiter le malnutrition au kwashiorkor, par exemple.
Que fait la FAO pour valoriser la consommation des insectes comestibles?
La FAO, dans ses différentes activités, par exemple, en 2015, a initié un projet sur la consommation des insectes nutritifs pour éviter la malnutrition ou les carences protéiniques. Et pourquoi? Tout simplement puisque tout ce que je viens de citer comme insectes, parfois, par exemple, si on considère le fossé, on est obligé de couper des palmiers raffia, par exemple, pour pouvoir en accéder. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que on contribue, par exemple, à la déforestation, voilà, puisqu'il faut détruire les arbres pour pouvoir avoir accès à cela. Dans certaines parties du pays, les arbres sur lesquels se reproduisent les chenilles, c'est-à-dire où les papillons se reproduisent, pour qu'il y ait des chenilles, ces arbres parfois sont coupés. Et donc la FAO intervient pour apprendre à la domestication de certains insectes pour que on puisse en avoir de manière permanente. Par exemple, les chenilles. Vous pouvez être dans une contrée où on a complètement ravagé les forêts. Je prends un exemple. Vous êtes à Chicapa, la plupart des forêts ont été coupées et lorsque la FAO intervient pour la réforestation, pour la restauration des forêts, les populations peuvent exiger des essences forestières sur lesquelles se produisent les chenilles. C'est pour que on puisse avoir la production des chenilles telle que on le constatait par le passé dans Chicapa. Voilà, pour les chenilles. Ailleurs, dans la ville de Kinshasa, par exemple, maintenant il y a des laboratoires, j'ai vu ça à Limpopo, où on essaie de reproduire les larves des coléoptères, vous avez dit charançon, c'est-à-dire les mpossé. On essaie de les reproduire au laboratoire pour qu'on ne soit pas tributeur des personnes qui doivent aller couper des arbres dans la forêt et venir mettre à notre disposition ces insectes qui sont comestibles, qui sont valeureux dans le goût, dans le mets, hein, dans le repas et même dans la construction de notre corps. Je dois évoquer aussi certains autres insectes que nous ne mangeons pas, mais parfois que l'on reproduit pour que nous puissions faire manger les animaux que nous allons manger par la suite. Je donne l'exemple des asticots, c'est-à-dire les larves de mouches. On les fait reproduire en grande quantité dans certaines occasions pour que ces asticots soient utilisés comme aliment de la volaille. Et donc, ça va donner les mêmes effets dans la volaille. Et nous, comme nous ne pouvons pas manger les asticots, puisque ça se reproduit dans des matières en putréfaction, mais nous nous régalons lorsque nous mangeons du poulet qui ont été élevés avec des asticots.
Monsieur Henri Paul, l'élevage des insectes pour l'alimentation humaine et animale est encore un secteur en devenir. Y a-t-il des avancées à ces jours?
Dans notre pays, non, je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées, il faut le reconnaître. Pourquoi? Puisque la nature nous gâte encore dans certains coins. Quand vous allez dans l'ancienne province de l'Équateur ou de manière générale dans la cuvette centrale, dans les régions forestières de notre pays, les chenilles ont des saisons appropriées. C'est des productions très élevées qui permettent aux populations de les acheminer jusque dans les grandes capitales. Donc, à certaines périodes, nous avons des chenilles qui proviennent des provinces de l'Équateur, de la Chuapa, de Chopo, et que l'on vend ici. Et même dans l'ancienne Bandundu, c'est-à-dire dans le Kwango et le Kwilu, il y a d'autres types de chenilles qui, elles, ne sont pas reproduites sur des arbres à proprement parler, mais décennies de savane et qui inondent nos marchés. Donc, à cause de ces faits, puisqu'on peut en trouver naturellement, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont faits pour la production, plutôt en élevage. Mais il y a des initiatives, comme je viens de le dire, des initiatives que la FAO a encadrées déjà depuis 2015 pour la production des insectes en élevage dans certains coins du pays, notamment autour de la ville de Kinshasa, mais aussi des initiatives dans le cadre de la recherche scientifique dans les universités, à l'université de Kinshasa ou à l'université pédagogique nationale, où il y a des essais de production de larves de charançon.
Alors, que pensez-vous de la ferme pour orphelins qui s'est lancée dernièrement dans la production des charançons des palmiers? Avez-vous un avis dessus?
Si, si. J'ai vu cela à travers les réseaux sociaux. C'est une très belle initiative. D'autres existent aussi. J'ai évoqué l'Université pédagogique nationale puisque c'est des très belles initiatives qui sont malheureusement encore à ce stade que sur le plan de la recherche, il faut que les recherches aboutissent effectivement, que sur le plan économique, cela soit rentable, puisque une expérimentation que l'on fait dans le cadre de recherche peut ne pas, en fin de compte, nous amener au fait que c'est économique. C'est-à-dire que les dépenses que l'on va engager pour produire le charançon ou les larves peuvent porter des bénéfices par la suite lorsque on en vend. Et pour qu'on les vende dans la chaîne des valeurs, il faut qu'il y ait des preneurs, donc des personnes qui peuvent en acheter, et qu'on apprécie la qualité, que ça reste avec les mêmes avantages que le produit qui vient de la forêt. Quand on sera arrivé à cela, et qu'on peut vulgariser, on peut démocratiser, on peut le rencontrer dans les familles, alors qu'on peut dire que l'initiative a réussi. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on est encore dans ce cheminement.
Voilà, Banao Kapi parle aujourd'hui de l'importance de charançon, des palmiers, communément appelés mpossé, dans la nutrition des enfants. Votre dernier mot, monsieur Henri?
Comme dernier mot, j'ai dit, tout est à encourager. Il faudrait éviter les barrières coutumières, par exemple, qui veulent que, dans certains coins du pays, on dit, on ne mange pas les chenilles. Non, on ne mange pas ce type de mets. Je sais que les charançons, le larve, l'imposé, pour les personnes qui viennent des provinces forestières, c'est un mets apprécié. Ils ne posent pas de questions, mais je sais que dans d'autres cultures, il faut plutôt convaincre et introduire. Et donc, on peut le manger. On peut le manger, ça paraît graisseux, mais il y a suffisamment de protéines. Et cette graisse n'est pas les gens qui puissent nous causer de problèmes puisque portant peut-être du mauvais cholestérol. Je ne pense pas que ce soit cela. La source protéinique à travers les insectes, c'est un bon atout, c'est un bon créneau à pouvoir faire pousser pour que la population sorte par cette voie-là de la malnutrition et des mauvais effets de l'insécurité alimentaire.
Voilà, monsieur Henri-Paul Eloma, je rappelle que vous êtes assistant du représentant de la FAO en charge de programme. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, monsieur.
C'est fini pour aujourd'hui. Le monde hébergera 9 milliards d'êtres humains en 2050, selon la FAO. Pour nourrir cette population, la production alimentaire actuelle devra être pratiquement multipliée par deux. Les terres deviennent rares et accroître les surfaces dédiées à l'agriculture n'est une option ni viable ni durable. Les océans sont déjà surpêchés, le changement climatique et les pénuries d'eau qui en résultent pourraient avoir des graves conséquences sur la production alimentaire. Pour relever les défis actuels de l'alimentation et de la nutrition, la FAO incite la population à se familiariser à l'entomophagie afin de répondre à nos besoins en protéines. L'assistant du représentant de la FAO en charge du programme, M. Henri Paul Eloma, s'est expliqué sur cette question dans cette émission. Nous avons également reçu comme invité Mme Françoise Loukadi et Jonathan Tshibangu Mutombo, tous deux de la ferme des orphelins spécialisée dans la production de charançons de palmier, communément appelée Possé. Gisèle Cage, Plamedi Mbiyavanga et Jeff Opela ont coproduit cette émission, réalisation de Stanislas Diomi et Gisèle Cage, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, mise en onde de Dieudonné Nyangasa, une présentation de Sarah Sombela. Vous pouvez réécouter cette belle émission sur le site www.radiocapi.net et sur la page Facebook Banao Kapi. Merci pour votre fidélité à Radio Kapi et à l'émission Banao Kapi.